RMC, face aux grandes gueules.
Elle est députée, la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. C'est madame la députée Aurélie Trouvé qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, ravie d'être avec vous.
La France Insoumise a décidé de préempter la place de la République dimanche pour la fête de la musique, pour transformer cette place de la République qui est habituellement offerte à tous les Parisiens pour la fête de la musique, transformer cela en espèce de concert, meeting, dans le cadre de la campagne présidentielle. Est-ce que c'est pas un peu gonflé?
Oh, déjà, c'est absolument pas privatisé. Je vous remercie pour cette publicité pour un concert gratuit auquel tout le monde est bienvenu. Vous aurez d'ailleurs de super groupes. Et je veux dire aussi que c'est surtout un concert antiraciste. C'est important. Et je veux dire aussi que la musique a toujours été politique. Vous savez, le chant de la Marseillaise, par exemple, était un chant révolutionnaire qui a été d'ailleurs interdit pendant des années.
Il paraît qu'on peut le siffler.
Et puis,
votre collègue
à nouveau, je veux bien que vous me laissiez, voilà, si vous voulez. Et qui a été à nouveau autorisé, entre guillemets, chanté en 1830 au moment de la Révolution. Donc, voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis très heureuse qu'il y ait ce concert antiraciste auquel tout le monde est bienvenu, bien au contraire. Donc merci d'en parler d'ailleurs aujourd'hui.
Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de politiser un rendez-vous populaire qui est devenu la fête de la musique?
Mais d'abord, ça veut dire quoi politiser? C'est faire un concert parce qu'on confond le politique et le politicien politique. Ça veut dire qu'il y aura des revendications antiracistes. Et pourquoi antiracistes?
Vous faites campagne, je veux dire. C'est oui. Le jour de la fête de la musique, vous faites un meeting de campagne, quoi.
Non, on fait un meeting antiraciste.
Oui, mais
et vous avez vu d'ailleurs, vous avez vu à quel point la France Insoumise est engagée contre le racisme. D'ailleurs, nous avons fait un énorme rassemblement à l'invitation de Bali Bagayoko il n'y a pas longtemps. Parce que justement, il y a des attaques sans arrêt racistes qui sont insupportables jusqu'aux plus hauts responsables politiques qui parlent par exemple pour Monsieur Retailleau des belles heures de la colonisation, de régression vers les origines ethniques. Bali Bagayoko s'en est pris plein de la tête d'injures racistes absolument abominables. Donc voilà, c'est je dirais des millions de personnes en France qui se sentent insultées à juste titre. Donc il est temps d'agir et ce concert en fait partie. Donc c'est une belle politique pour moi et pour finir. Vive la culture, vive la musique, vive les lettres, vive les musées. Je vois que vous êtes professeur de français. Et la culture aussi, et ben c'est une façon aussi pour nous de dire que la culture, elle est au centre de notre projet politique.
Antoine, tu voulais parler des sifflets de la Marseillaise.
On a parlé de Bali Bakayoko, là, notamment sur les sifflets de la Marseillaise. Moi, j'ai vu un peu votre parcours. Vous faites partie de la LFI intellectuelle. Je vois beaucoup de choses, le temps chez Attac, la famille de militants, etc. Vous êtes probablement une LFI un peu différente, puisque vous parlez de l'histoire de la Marseillaise et Bali Bagayoko veut permettre de la siffler. Alors, est-ce que vous pensez légitime qu'on puisse siffler la Marseillaise?
Attends, déjà, arrêtons de caricaturer. Il fait un constat en disant que c'est une réplique populaire pour plein pour des gens.
Bien.
Alors, d'abord, je vais vous répondre. À la fin de chacun de nos meetings, nous chantons la Marseillaise. Et d'ailleurs, pas une personne ne siffle la Marseillaise lorsque nous faisons un meeting.
Et je suis sûr que Jean-Luc Mélenchon ne supporterait pas qu'on siffle la Marseillaise.
Et pour nous, c'est une chanson révolutionnaire et populaire. Pour autant, il y a des Français qui sont extrêmement en colère contre l'État, contre les gouvernements. Et ce moment, le fait de la siffler, en fait, pour eux, c'est une manière de protester contre l'État et les gouvernements. Et c'est un constat que l'on fait. Voilà.
Nous,
au contraire, à la France Insoumise, d'ailleurs, nous le disons. La Marseillaise est une chanson de la République. Voilà.
Aurélie, vous savez qu'on a interdit cela. Maintenant, c'est une espèce d'injure publique, un outrage, je cherche le terme. C'est un outrage public de siffler la Marseillaise lors de, par exemple, d'un match de foot. C'est interdit par la loi depuis 2003, après le match France-Algérie qui avait été sifflé. Ces sifflets avaient été incompris en fait et même pour certains trouvaient ça scandaleux de siffler à ce moment-là la Marseillaise. Donc c'est un symbole, mais c'est un symbole assez anti-France de siffler la Marseillaise.
Alors moi je m'étonne que ça fasse autant parler dans les médias, mais est-ce qu'il y a pas des choses encore bien davantage choquantes, excusez-moi. Et quand il y a ces sifflets, quand il y a ces sifflets, c'est aussi une partie de la population qui se dit mais attendez, mais l'État français, c'est aussi celui pour un certain nombre de hauts responsables politiques qui glorifient encore les heures de la colonisation, à commencer par Éric Zemmour. Je sais que vous faisiez partie de son équipe de campagne. à commencer par Monsieur Retailleau, je l'ai dit, qui voilà. Et donc il y a une colère aussi parfois qui s'exprime et qui s'exprime à ces moments-là. Et c'est un constat, voilà. Et c'est une réplique populaire aussi qui est voilà. Et c'est ce dont parle Monsieur Bagayoko.
Dans son entretien, Monsieur Bali Bagayoko, dans l'entretien accordé à l'Opinion, dit ce n'est pas souhaitable, mais si un soulèvement populaire, si le Rassemblement national, une insurrection gagne l'élection, ça se comprendrait. Vous le comprendriez aussi.
Ça se comprendrait de quoi ?
Qu'il y ait une insurrection, un soulèvement populaire après une victoire.
J'espère bien qu'il y aura une résistance populaire citoyenne contre l'extrême droite. Mais nous,
après le résultat. Hein.
Mais après, de toute façon, bien sûr. Et alors, nous sommes tout le temps en résistance.
Qu'est-ce que vous appelez une résistance citoyenne ou
Non, mais parce que vous comprenez l'insurrection, on prend les armes, etc. Regardez la définition. Nous sommes avec une professeure de français, donc voilà. L'insurrection, c'est pas forcément prendre les armes, c'est
donc
de la résistance.
Si le Rassemblement
qui peut être
gagne,
citoyenne et pacifique. Mais sachez que oui, si le Rassemblement national gagne, nous serons en résistance citoyenne, populaire et pacifique. Bien entendu, nous le sommes déjà. Je vais vous le dire.
Dimanches.
Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, si vous voulez éviter que l'extrême droite gagne en 2027, votez Jean-Luc Mélenchon, nous pouvons le faire.
Alors, insurrection, la définition d'insurrection, action de s'insurger, de se soulever contre un pouvoir politique établi en recourant à la violence armée, le mouvement lui-même quand il est de grande ampleur. Voilà.
Aïe. Après, la résistance, elle peut être.
Parce qu'il y a toujours plusieurs définitions dans un larousse, si vous me permettez. Donc, vous en avez pris une et il y en a d'autres.
Bon, ce soir, on reçoit qui à Versailles, Madame Trouvé ?
Eh bien, Monsieur Trump.
Un suprémaciste raciste.
D'ailleurs, suprémaciste raciste d'extrême droite.
Le château de Versailles.
L'Europe est en train de se vassaliser parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, et voter un accord absolument abominable qui va nous mettre encore plus pieds et poings liés aux États-Unis, qui dit que par exemple on devra importer massivement des États-Unis par exemple du gaz de schiste plutôt que de chercher la sobriété et la souveraineté économique. Et surtout, vous savez, cet accord avec les États-Unis qui vient d'être voté par l'Europe avec la complicité de la France, d'accord, eh bien ça va être aussi pour empêcher que l'on agisse véritablement contre les GAFAM, contre Google, Facebook et compagnie, qui sont en train d'établir une véritable colonie numérique en France. Donc moi, j'appelle aussi à la résistance contre la vassalisation de la France aux États-Unis et à Trump.
Vous n'utilisez pas Google ?
Mais le problème, c'est surtout que...
Vous n'utilisez pas ChatGPT, vous...
D'accord, je vais le dire autrement. Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, que dans nos grands services publics, l'État choisisse de se tourner vers des multinationales américaine dans la commande publique avec notre argent c'est parce que justement on ne commande pas, nous on a des champions du numérique. Je vais vous dire, Atos.
Il faut protéger nos frontières.
Atos. Parlons d'Atos. Il se trouve, vous savez, avant-hier, j'ai publié mon rapport de la commission d'enquête contre les fonds prédateurs, la finance prédatrice. Notamment, c'est des fonds américains étrangers. Et ben, par exemple, Atos, qui est notre champion numérique, vous savez que c'est notre plus grande entreprise du numérique. Eh bien, on l'a vendu fin 2024 à des fonds spéculatifs. Un tiers du capital est dirigé par des fonds spéculatifs. On l'a désossé avec la complicité de l'État, alors qu'avant, il y avait un PDG qui s'appelait Thierry Breton, qu'ensuite, il y a eu Édouard Philippe dans le conseil d'administration. C'était censé être ce qu'on appelle la fille naturelle de l'État. Et aujourd'hui, dans les mains de fonds spéculatifs, vous savez ce qu'il y a ? Il y a impots.gouv.fr, il y a ma carte vitale. Il y a tous les services numériques dont vous servez, avec toutes les bases de données, de santé par exemple. Il y a de la cybersécurité, il y a des programmes pour l'armée. Tout ça, c'est dans les mains de fonds spéculatifs, dont des fonds américains. Enfin, excusez-moi, mais on a un réel problème de souveraineté industrielle dans ce pays.
On n'a pas su créer des champions non plus, quoi. Malheureusement, c'est ça aussi.
Et parce qu'on n'a pas mis les moyens.
Mais est-ce que c'est à l'État à mettre les moyens ? Là, ce sont les privés qui ont créé ces fonds. Les champions du numérique et l'intelligence artificielle sont des privés aussi américains qui continuent d'investir des milliards de dollars. On est largués, on est dépassés.
C'est bien qu'on aurait donné de l'argent public à l'État, au privé. En fait, moi, je suis dans une boîte qu'on est en train de démanteler pour donner de l'argent public au privé. On fait ça surtout. En fait, à un moment donné, je trouve que si on se résigne à se dire, de toute façon, oui, c'est pas le rôle de l'État, en fait, le rôle de l'État, c'est quand même de nous protéger de toutes ces. En fait, tu peux pas te plaindre toute la journée que Facebook t'envoie des trucs parce qu'il t'a entendu parler d'une paire de baskets et deux secondes plus tard, tu te retrouves sur ton téléphone et après te dire, non, mais c'est pas grave de donner tout aux Américains. Enfin, il faut qu'on y aille doucement. La semaine dernière, à votre place, on avait Bruno Le Maire. ministre de l'économie. Bah
alors lui, 7 ans de catastrophe.
Non, mais, c'est fou, mais non, mais
lui, il a plié le pays.
Oui, mais fallait surtout l'entendre pour nous expliquer qu'il avait rien fait, qu'il avait des idées.
Qu'il avait fait tout ça vachement bien.
Oui, oui, et puis que surtout Macron l'a pas écouté.
Vous savez que d'ailleurs, je l'ai eu en audition dans ma commission d'enquête, c'était une honte. Il nous a dit pendant 2 heures que tout ce qu'il avait fait était absolument génial, que les fonds étrangers, heureusement qu'on les a tirés, mais il faut voir quels fonds on attire, qu'ils sont en train de piller nos entreprises une par une. Voilà ce qui est en train de se passer. Et je vais vous dire, enfin, en fait, un État, normalement, il est censé agir. Il n'est pas censé laisser faire les multinationales, la finance et tout ça, qui sont avec des gens qui... Vous savez combien ça rapporte ?
La finance, c'est mon ennemi, on l'a déjà eu, on y a déjà eu droit. Hein.
Ouais, alors, mais excusez-moi, moi...
C'est le traître aussi.
Vous savez qui a installé Monsieur Macron ? C'est Monsieur Hollande. Donc, je vais vous dire, dans ma commission d'enquête, mon rapport, je remonte tous ces problèmes-là, pas à 2017, hein,
si vous arrivez...
avant ça. À 2014, quand François Hollande nomme Monsieur Macron. Alors, je vais vous dire, moi, jamais, je pense qu'il ne faut reproduire ce qu'a fait Monsieur Hollande. Et nous, on n'est pas une gauche, François Hollande.
Vous êtes
très
un
clair.
Peu la, vous êtes la
gauche Glucksmann.
Vous êtes la madame.
Non plus. On est une vraie gauche qui veut changer les choses.
Vous êtes la madame économie, justement, de la France insoumise. Si vous arrivez au pouvoir, vous allez trouver une situation économique difficile. La croissance est en berne. Les caisses sont vides. Le déficit bat des records. Le déficit commercial également. Et moi, quand je regarde et j'écoute vos propositions, c'est toujours plus de dépenses publiques. Donc, est-ce que vous n'allez pas vous heurter au réel ? Et une fois de plus, la gauche au pouvoir va décevoir parce que vous allez faire des promesses qui vont faire plaisir aux oreilles des électeurs de gauche. Et puis, une fois que vous serez au pouvoir, il va falloir régler une situation qui est très, très compliquée. Et notamment cette situation des dépenses, des finances publiques.
Alors, justement, je vais rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur Poncet, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et vous parliez de toutes ces aides distribuées au privé à des grandes entreprises.
200 pas des aides, c'est des défiscalisations.
Aussi, mais ça revient à ça aussi.
Bah non,
211 milliards par an, d'accord ? 211 milliards. Moi, hier matin, j'étais avec les ouvriers de Stellantis Poissy. Ouais. Dernière usine automobile qui va fermer. 1000 emplois supprimés. Des usines comme ça, il y en a plein, qui sont en train de plier, de fermer.
Bah oui.
Eh ben, Stellantis touche des centaines de millions d'euros d'aides publiques. Comment ça se fait ?
Ce sont des exonérations fiscales. Alors, si vous enlevez ces exonérations fiscales,
comment ça se fait ?
Vous pensez que vous allez aider Stellantis à sauver ses emplois ?
Eh ben, toute aide publique versée à une entreprise devrait être conditionnée au maintien de l'emploi et de la production.
Enlevez...
Vous savez le.
Non, mais attendez, je vais être jusqu'au bout de cette logique parce qu'elle me paraît absurde, mais vous enlevez donc l'exonération fiscale, parce que ce sont des exonérations fiscales, et vous pensez que Stellantis ira mieux ?
C'est parce qu'il y a un
donc sauver
les emplois. Alors en plus Stellantis, parlons-en.
Je pense que ça sera encore pire.
Vous savez combien Stellantis paye d'impôts sur les sociétés ? Certaines années ? Zéro.
Sur son activité en France ?
Zéro.
Oui, parce que
comme Total. Total. Sur 14.
On va pas payer de l'impôt quand on a
Total,
pas de bénéfice.
Total, la plupart des années, paye zéro euro d'impôt. Alors, est-ce que Total fait zéro ? Alors, d'ailleurs, on devait parler de ça.
Elle est à l'étranger.
Non, il est fait en France, tu peux pas dire ça. Il nous vend le pétrole.
Alors, je vais vous expliquer pourquoi.
L'activité de Total.
Mais c'est une foutaise. Je vais vous expliquer.
Laissez-la parler.
Je vais vous expliquer. C'est ce que Total a essayé de nous mettre dans la tête. D'abord, vous vous souvenez que Total, rien que depuis 4 mois, là, les prix n'ont pas redescendu. Hein. D'accord ?
Si, là, il redescend en ce moment.
La pompe très, très, très lentement.
Mais il descend.
Les cours internationaux ont baissé de 25%. Vous verrez, les prix à la pompe, ils ne vont jamais revenir au niveau d'avant. Et je vais vous dire, Total a fait des milliards de surprofits depuis 4 mois. Des milliards de surprofits. Ils l'ont même publié. J'ai eu le responsable en face de moi sur un plateau. Me dire, oui, en effet, il y a eu des milliards de surprofits, d'accord ? Ils le disent eux-mêmes. OK. Par ailleurs, par exemple, son PDG, monsieur Pouyanné, hein, vous savez que c'est 10 millions d'euros de revenus chaque année. Hein. Bon, les gens, il y a des gens qui cet été vont pas partir en vacances à cause de ça, d'accord ?
À cause
des actionnaires qui s'en mettent plein les poches.
À cause de la guerre. On
aurait pu tout à fait bloquer les prix et bloquer les surprofits de Total. Et il est temps que Total rende l'argent aux Français. Il y a eu des milliards
sortis des poches. Si vous arrivez au pouvoir, vous privatisez Total.
Si on arrive au pouvoir, on bloquera les prix et les marges. On bloquera les prix et les marges et on mettra une taxation sur les surprofits et une taxe qui permette qu'ils payent réellement en fonction des profits qu'ils font parce que Total fait de l'évasion fiscale.
La dernière question.
Si Total affiche...
des profits qui sont faits à l'étranger, c'est interdit.
Si Total affiche 0 euro d'impôt sur les sociétés, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils font de l'évasion fiscale. Ils trompent l'État. Et en fait, ils mettent tous leurs profits dans des paradis fiscaux.
Merci Aurélie Trouvé.
Donc il est temps d'arrêter avec ça. Alors, et nous l'arrêterons en 2027 avec Mélenchon.
Merci Madame la députée de Saint-Denis. Merci d'avoir été avec nous. Ah ben c'est les temps de parole, on est à la minute près.